Le cousin Ponce, deuxième partie. Après le succès d'un ballet qui commença la rapide fortune de la compagnie Gaudissart, les directeurs envoyèrent à Ponce un groupe en argent attribué à Benvenuto Cellini, dont le prix effrayant avait été l'objet d'une conversation au foyer. Il s'agissait de 1200 francs. Le pauvre honnête homme voulut rendre ce cadeau. Gaudissart eut 1000 peines à le lui faire accepter. « Ah, si nous pouvions, dit-il à son associé, trouver des acteurs de cet échantillon-là. » Cette double vie, si calme en apparence, était troublée uniquement par le vice auquel sacrifiait Ponce, ce besoin féroce de dîner en ville. Aussi, toutes les fois que Schmuck se trouvait au logis quand Ponce s'habillait, le bon Allemand déplorait-il cette funeste habitude. « Encore si ça l'engraissait !» s'écriait-il souvent. Et Schmuck rêvait au moyen de guérir son ami de ce vice dégradant. Car les amis véritables jouissent, dans l'ordre moral, de la perfection dont est doué l'odorat des chiens. Ils flairent les chagrins de leurs amis, ils en devinent les causes, ils s'en préoccupent. Ponce, qui portait toujours au petit doigt de la main droite une bague à diamants tolérée sous l'Empire, est devenu ridicule aujourd'hui. Ponce, beaucoup trop troubadour et trop français, n'offrait pas dans sa physionomie la sérénité divine qui tempérait l'effroyable laideur de Schmuck. L'Allemand avait reconnu dans l'expression mélancolique de la figure de son ami les difficultés croissantes qui rendaient ce métier de parasite de plus en plus pénible. En effet, en octobre 1844, le nombre des maisons où dînait Ponce était naturellement très restreint. Le pauvre chef d'orchestre, réduit à parcourir le cercle de la famille, avait, comme on va le voir, beaucoup trop étendu la signification du mot « famille ». L'ancien lauréat était le cousin germain de la première femme de Monsieur Camusot, le riche marchand de soieries de la rue des Bourdonnais, une demoiselle Ponce, unique héritière d'un des fameux Ponce frères, les brodeurs de la cour, maison où le père et la mère du musicien étaient commanditaires après l'avoir fondée avant la Révolution de 1789, et qui fut achetée par M. Rivet en 1815, du père de la première Madame Camusot. Ce Camusot, retiré des affaires depuis 10 ans, se trouvait en 1844 membre du Conseil général des manufactures, député, etc. Pris en amitié par la tribu des Camusot, le bonhomme Ponce se considéra comme étant cousin des enfants que le marchand de soieries eut de son second lit, quoiqu'ils ne fussent rien, pas même alliés. La deuxième Madame Camusot était une demoiselle Cardot. Ponce s'introduisit à titre de parent des Camusot dans la nombreuse famille des Cardot, deuxième tribu bourgeoise, qui, par ses alliances, formait toute une société non moins puissante que celle des Camusot. Cardot, le notaire, frère de la seconde Madame Camusot, avait épousé une demoiselle Chiffreville, la célèbre famille des Chiffreville, la reine des produits chimiques, était liée avec la grosse droguerie dont le coq fut pendant longtemps M. Anselme Popineau, que la Révolution de Juillet avait lancé, comme on sait, au cœur de la politique la plus dynastique. Et Ponce devenir à la queue des Camusot et des Cardot chez les Chiffreville, et de là chez les Popineau, toujours en qualité de cousin des cousins. Ce simple aperçu des dernières relations du vieux musicien fait comprendre comment il pouvait être encore reçu familièrement en 1844. Premièrement, chez Monsieur le comte Popineau, pair de France, ancien ministre de l'Agriculture et du Commerce. Deuxièmement, chez Monsieur Cardot, ancien notaire, maire et député d'un arrondissement de Paris. Troisièmement, chez le vieux monsieur Camusot, député, membre du conseil municipal de Paris et du conseil général des manufactures, en route vers la Pairie. Quatrièmement, chez monsieur Camusot de Marville, fils du premier lit, et partant le vrai, le seul cousin réel de Ponce, quoique petit cousin. Ce Camusot, qui, pour se distinguer de son père et de son frère du second lit, avait ajouté à son nom celui de la terre de Marville, était, en 1844, président de chambre à la cour royale de Paris. L'ancien notaire Cardot ayant marié sa fille à son successeur, nommé Berthier, Ponce, faisant partie de la charge, sut garder ce dîner, par devant notaire, disait-il. Voilà le firmament bourgeois que Ponce appelait sa famille, et où il avait si péniblement conservé droit de fourchette. De ces 10 maisons, celle où l'artiste devait être le mieux accueilli, la maison du président Camusot, était l'objet de ses plus grands soins. Mais, hélas, la présidente, fille du feu sieur Thirion, huissier du cabinet des rois Louis XVIII et Charles X, n'avait jamais bien traité le petit cousin de son mari. Attaché d'adoucir cette terrible parente, Ponce avait perdu son temps, car après avoir donné gratuitement des leçons à mademoiselle Camusot, il lui avait été impossible de faire une musicienne de cette fille un peu rousse. Or, Ponce, la main sur l'objet précieux, se dirigeait en ce moment chez son cousin le président, où il croyait, en entrant, être aux Tuileries, dans les solennelles draperies vertes, les tentures couleur carmélite et les tapis en moquette, les meubles graves de cet appartement, où respirait la plus sévère magistrature, agissaient sur son moral. Chose étrange, il se sentait à l'aise à l'hôtel Popinot, rue basse du rempart, sans doute à cause des objets d'art qui s'y trouvaient, car l'ancien ministre avait, depuis son avènement en politique, contracté la manie de collectionner les belles choses, sans doute pour faire opposition à la politique qui collectionne secrètement les actions les plus laides. Le président de Marville demeurait rue de Hanovre, dans une maison achetée depuis 10 ans par la présidente, après la mort de son père et de sa mère, les sieurs et dames Thirion, qui lui laissèrent environ 150 000 francs d'économie. Cette maison, d'un aspect assez sombre sur la rue, où la façade est à l'exposition du nord, jouit de l'exposition du midi sur la cour, ensuite de laquelle se trouve un assez beau jardin. Le magistrat occupe tout le premier étage, qui, sous Louis XV, avait logé l'un des plus puissants financiers de ce temps. Le second étant loué à une riche et vieille dame, cette demeure présente un aspect tranquille et honorable qui sied à la magistrature. Les restes de la magnifique terre de Marville, à l'acquisition desquels le magistrat avait ses économies de 20 ans, ainsi que l'héritage de sa mère, se composent du château, splendide monument comme il s'en rencontre encore en Normandie, et d'une bonne ferme de 12 000 francs. Un parc de 100 hectares entoure le château. Ce luxe, aujourd'hui princier, coûte 1 millier d'écus au président, en sorte que la terre ne rapporte guère que 9 000 francs en sac, comme on dit. Ces 9 000 francs et son traitement donnaient alors au président une fortune d'environ 20 000 francs de rente, en apparence suffisante, surtout en attendant la moitié qui devait lui revenir dans la succession de son père, où il représentait à lui seul le premier lit. Mais la vie de Paris et les convenances de leur position avaient obligé M. et Mme de Marville à dépenser la presque totalité de leurs revenus. Jusqu'en 1834, ils s'étaient trouvés gênés. Cet inventaire explique pourquoi Mademoiselle de Marville, jeune fille âgée de 23 ans, n'était pas encore mariée, malgré 100 000 francs de dot et malgré l'appât de ses espérances, habilement et souvent, mais vainement présentée. Depuis 5 ans, le cousin Ponce écoutait les doléances de la présidente qui voyait tous les substituts mariés, les nouveaux juges au tribunal déjà pères, après avoir inutilement fait briller les espérances de mademoiselle de Marville aux yeux peu charmés du jeune vicomte Popinot, fils aîné du coq de la droguerie, au profit de qui, selon les envieux du quartier des Lombards, la révolution de juillet avait été faite, au moins autant qu'à celui de la branche cadette. Arrivé rue de Choiseul et sur le point de tourner la rue de Hanovre, Ponce éprouva cette inexplicable émotion qui tourmente les consciences pures, qui leur inflige les supplices ressentis par les plus grands scélérats à l'aspect d'un gendarme, et causée uniquement par la question de savoir comment le recevrait la présidente. Ce grain de sable, qui lui déchirait les fibres du cœur, ne s'était jamais arrondi. Les angles en devenaient de plus en plus aigus, et les gens de cette maison en ravivaient incessamment les arêtes. En effet, le peu de cas que les Camusot faisaient de leur cousin Ponce, sa démonétisation au sein de la famille, agissait sur les domestiques, qui, sans manquer d'égard envers lui, le considéraient comme une variété du pauvre. L'ennemi capital de Ponce était une certaine Madeleine Vivet, vieille fille sèche et mince, la femme de chambre de Madame C. de Marville et de sa fille. Cette Madeleine, malgré la coupe rose de son teint, et peut-être à cause de cette coupe rose et de sa longueur vipérine, s'était mis en tête de devenir Madame Ponce. Madeleine étala vainement 20 000 francs d'économie aux yeux du vieux célibataire. Ponce avait refusé ce bonheur par trop couperosé. Aussi, cette Didon d'antichambre, qui voulait devenir la cousine de ses maîtres, jouait-elle les plus méchants tours aux pauvres musiciens. Madeleine s'écriait très bien « Ah ! Voilà le pique-assiette !» en entendant le bonhomme dans l'escalier et en tâchant d'être entendue par lui. Si elle servait à table, en l'absence du valet de chambre, elle versait peu de vin et beaucoup d'eau dans le verre de sa victime, en lui donnant la tâche difficile de conduire à sa bouche, sans en rien verser, un verre près de déborder. Elle oubliait de servir le bonhomme et se le faisait dire par la présidente. De quel ton ? Le cousin en rougissait. Ou elle lui renversait de la sauce sur ses habits. C'était enfin la guerre de l'inférieur qui se sait impuni contre un supérieur malheureux. À la fois femme de charge et femme de chambre, Madeleine avait suivi monsieur et madame Camusot depuis leur mariage. Elle avait vu ses maîtres dans la pénurie de leur commencement en province quand monsieur était juge au tribunal d'Alençon. Elle les avait aidés à vivre lorsque, président au tribunal de Mantes, monsieur Camusot vint à Paris en 1828, où il fut nommé juge d'instruction. Elle appartenait donc trop à la famille pour ne pas avoir des raisons de s'en venger. Ce désir de jouer à l'orgueilleuse et ambitieuse présidente le tour d'être la cousine de monsieur devait cacher une de ces haines sourdes engendrées par un de ces graviers qui font les avalanches. « Madame, voilà votre monsieur Ponce, et en Spencer encore !» vint dire Madeleine à la présidente. « Il devrait bien me dire par quel procédé il le conserve depuis 25 ans. » En entendant un pas d'homme dans le petit salon qui se trouvait entre son grand salon et sa chambre à coucher, Madame Camusot regarda sa fille et haussa les épaules. « Vous me prévenez toujours avec tant d'intelligence, Madeleine, que je n'ai plus le temps de prendre un parti, » dit la présidente. « Madame, Jean est sorti, j'étais seule, monsieur Ponce a sonné, je lui ai ouvert la porte, et comme il est presque de la maison, je ne pouvais pas l'empêcher de me suivre. Il est là, qui se débarrasse de son Spencer. » « Ma pauvre Minette, » dit la présidente à sa fille, « nous sommes prises, nous devons maintenant dîner ici. » « Voyons, » reprit-elle en voyant sa chère Minette une figure piteuse, « faut-il nous débarrasser de lui pour toujours ?»« Oh, pauvre homme !» répondit mademoiselle Camusot, « le priver d'un de ses dîners. » Le petit salon retentit de la fausse tousserie d'un homme qui voulait dire ainsi « Je vous entends !»« Eh bien, qu'il entre !» dit madame Camusot à Madeleine en faisant un geste d'épaule. « Vous êtes venu de si bonne heure, mon cousin !» dit Cécile Camusot en prenant un petit air câlin, « que vous nous avez surprise au moment où ma mère allait s'habiller. » Le cousin Ponce, à qui le mouvement d'épaule de la présidente n'avait pas échappé, fut si cruellement atteint qu'il ne trouva pas un compliment à dire, et il se contenta de ce mot profond. « Vous êtes toujours charmante, ma petite cousine. » Puis, se tournant vers la mère et la saluant, « Chère cousine, reprit-il, vous ne sauriez m'en vouloir de venir un peu plus tôt que de coutume. Je vous apporte ce que vous m'avez fait le plaisir de me demander. » Et le pauvre Ponce, qui sciait en deux le président, la présidente et Cécile chaque fois qu'il les appelait cousin ou cousine, tira de la poche de côté de son habit une ravissante petite boîte oblongue en bois de Sainte-Lucie, divinement sculptée. « Ah, je l'avais oubliée !» dit sèchement la présidente. Cette exclamation n'était-elle pas atroce? N'ôtait-elle pas tout mérite aux soins du parent dont le seul tort était d'être un parent pauvre? « Mais, reprit-elle, vous êtes bien bon, mon cousin. Vous dois-je beaucoup d'argent pour cette petite bêtise ?» Cette demande causa comme un tressaillement intérieur au cousin. Il avait la prétention de solder tous ses dîners par l'offrande de ce bijou. « J'ai cru que vous me permettiez de vous l'offrir, » dit-il d'une voix émue. « Comment, comment ? » reprit la présidente. « Mais entre nous, pas de cérémonie. Nous nous connaissons assez pour laver notre linge ensemble. Je sais que vous n'êtes pas assez riche pour faire la guerre à vos dépens. N'est-ce pas déjà beaucoup que vous ayez pris la peine de perdre votre temps à courir chez les marchands ? Vous ne voudriez pas de cet éventail, ma chère cousine, si vous deviez en donner la valeur, expliqua le pauvre homme offensé. Car c'est un chef-d'œuvre de Watteau qu'il a peint des deux côtés. Mais soyez tranquille, ma cousine, je n'ai pas payé la centième partie du prix d'art. Dire à un riche, vous êtes pauvre, c'est dire à l'archevêque de Grenade que ses homélies ne valent rien. Madame la présidente était beaucoup trop orgueilleuse de la position de son mari, de la possession de la terre de Marville et de ses invitations au bal de la cour, pour ne pas être atteinte au vif par une semblable observation, surtout partant d'un misérable musicien vis-à-vis de qui elle se posait en bienfaitrice. « Ils sont donc bien bêtes, les gens à qui vous achetez ces choses-là, » dit vivement la présidente. « On ne connaît pas à Paris de marchands bêtes, » répliqua Ponce presque sèchement. « C'est alors vous qui avez beaucoup d'esprit, » dit Cécile pour calmer le débat. « Ma petite cousine, j'ai l'esprit de connaître Lancré, Pater, Watteau, Greuze, mais j'avais surtout le désir de plaire à votre chère maman. » Ignorante et vaniteuse, Madame de Marville ne voulait pas avoir l'air de recevoir la moindre chose de son pique-assiette, et son ignorance la servait admirablement. Elle ne connaissait pas le nom de Watteau. Si quelque chose peut exprimer jusqu'où va l'amour-propre des collectionneurs, qui certes est un des plus vifs, car il rivalise avec l'amour-propre d'auteur, c'est l'audace que Ponce venait d'avoir en tenant tête à sa cousine, pour la première fois depuis 20 ans. Stupéfait de sa hardiesse, Ponce reprit une contenance pacifique en détaillant à Cécile les beautés de la fine sculpture des branches de ce merveilleux éventail. Mais, pour être dans tout le secret de la trépidation cordiale à laquelle le bonhomme était en proie, il est nécessaire de donner une légère esquisse de la présidente. À 46 ans, Madame de Marville, autrefois petite, blonde, grasse et fraîche, toujours petite, était devenue sèche. Son front busqué, sa bouche rentrée, que la jeunesse décorait jadis de teintes fines, changeait alors son air, naturellement dédaigneux, en un air rechigné. L'habitude d'une domination absolue au logis avait rendu sa physionomie dure et désagréable. Avec le temps, le blond de la chevelure avait tourné au châtain aigre. Les yeux, encore vifs et caustiques, exprimaient une morgue judiciaire chargée d'une envie continue. En effet, la présidente se trouvait presque pauvre au milieu de la société de bourgeois parvenus ou dîner Ponce. Elle ne pardonnait pas au riche marchand droguiste, ancien président du tribunal de commerce, d'être devenu successivement député, ministre, comte et pair. Elle ne pardonnait pas à son beau-père de s'être fait nommer, au détriment de son fils aîné, député de son arrondissement, lors de la promotion de Popineau à la pairie. Après 18 ans de service à Paris, elle attendait encore pour Camusot la place de conseiller à la cour de cassation, d'où l'excluait d'ailleurs une incapacité connue au palais. Le ministre de la Justice de 1844 regrettait la nomination de Camusot à la présidence, obtenue en 1834. Mais on l'avait placé à la chambre des mises en accusation, où, grâce à sa routine d'ancien juge d'instruction, il rendait des services en rendant des arrêts. Ces mécomptes, après avoir usé la présidente de Marville, qui ne s'abusait pas d'ailleurs sur la valeur de son mari, la rendaient terrible. Son caractère déjà cassant s'était aigri. Plus vieillie que vieille, elle se faisait âpre et rêche, comme une brosse, pour obtenir, par la crainte, tout ce que le monde se sentait disposé à lui refuser. Mordante à l'excès, elle avait peu d'amis. Elle imposait beaucoup, car elle s'était entourée de quelques vieilles dévotes de son acabit qui la soutenaient à charge de revanche. Aussi, les rapports du pauvre Ponce avec ce diable en jupon étaient-ils ceux d'un écolier avec un maître qui ne parle que par férule. La présidente ne s'expliquait donc pas la subite audace de son cousin, elle ignorait la valeur du cadeau. « Où donc avez-vous trouvé cela ?» demanda Cécile en examinant le bijou. « Rue de Lappe, chez un brocanteur qui venait de le rapporter d'un château qu'on a dépecé près de Dreux. Aunay, un château que Madame de Pompadour habitait quelquefois avant de bâtir Ménard. On en a sauvé les plus splendides boiseries que l'on connaisse. Elles sont si belles que Liénard, notre célèbre sculpteur en bois, en a gardé, comme nec plus ultra de l'art, deux cadres ovales pour modèles. Il y avait là des trésors. Mon brocanteur a trouvé cet éventail dans un bonheur du jour en marqueterie que j'aurais acheté si je faisais collection de ces œuvres-là. Mais c'est inabordable. Un meuble de Risonner vaut de 3 à 4 000 francs. On commence à reconnaître à Paris que les fameux marqueteurs allemands et français des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ont composé de véritables tableaux en bois. Le mérite du collectionneur est de devancer la mode. Tenez, d'ici à 5 ans, on paiera à Paris les porcelaines de Frankenthal, que je collectionne depuis 20 ans, 2 fois plus cher que la pâte tendre de Sèvres. Qu'est-ce que le Frankenthal ? Dit Cécile. C'est le nom de la fabrique de porcelaine de l'électeur palatin. Elle est plus ancienne que notre manufacture de Sèvres. Comme les fameux jardins de Heidelberg, ruinés par Turenne, ont eu le malheur d'exister avant ceux de Versailles. Sèvres a beaucoup copié Frankenthal. Les Allemands, il faut leur rendre justice, ont fait, avant nous, d'admirables choses en Saxe et dans le Palatinat. La mère et la fille se regardaient comme si Ponce leur eût parlé chinois, car on ne peut se figurer combien les Parisiens sont ignorants et exclusifs. Ils ne savent que ce qu'on leur apprend, quand ils veulent l'apprendre. « Et à quoi reconnaissez-vous le Frankenthal ?»«
Et la signature ?» dit Ponce avec feu.
« Tous ces ravissants chefs-d'œuvre sont signés. Le Frankenthal porte un C et un T. » Charles Théodore, entrelacé et surmonté d'une couronne de prince. Le vieux Saxe a ses 2 épées et le numéro d'ordre en or. Vincennes signait avec un corps, Vienne avec un V fermé et barré, Berlin a 2 barres, Mayence à la roue, Sèvres les 2 L, et la porcelaine à la reine, 1 A, qui veut dire Antoinette, surmontée de la couronne royale. Au XVIIIe siècle, tous les souverains de l'Europe ont rivalisé dans la fabrication de la porcelaine. On s'arrachait les ouvriers. Watteau dessinait des services pour la manufacture de Dresde, et ses œuvres ont acquis des prix fous.
Il faut s'y bien connaître, car aujourd'hui, Dredd les répète et les recopie. Alors, on a fabriqué des choses admirables et qu'on ne refera plus.
Ah, bah !
Oui, cousine, on ne refera plus certaines marqueteries, certaines porcelaines, comme on ne refera plus des Raphaël, des Titien, ni des Rembrandt, ni des Van Eyck, ni des Cranach. Tenez, les Chinois sont bien habiles, bien adroits. Eh bien, ils recopient aujourd'hui les belles œuvres de leur porcelaine dite grand mandarin. Eh bien, deux vases de grand mandarin ancien, du plus grand format, valent 6, 8, 10 000 francs, et on a la copie moderne pour 200 francs.
Vous plaisantez ?
Cousine, ces prix vous étonnent, mais ce n'est rien. Non seulement un service complet pour un dîner de 12 personnes en pâte tendre de Sèvres, qui n'est pas de la porcelaine, vaut 100 000 francs, mais c'est le prix de facture. Un pareil service se payait 50 000 francs à Sèvres en 1750. J'ai vu des factures originales. Revenons à cet éventail, dit Cécile, à qui le bijou paraissait trop vieux. Vous comprenez que je me suis mis en chasse dès que votre chère maman m'a fait l'honneur de me demander un éventail, reprit Ponce. J'ai vu tous les marchands de Paris sans y rien trouver de beau. Car, pour la chère présidente, je voulais un chef-d'œuvre, et je pensais à lui donner l'éventail de Marie-Antoinette, le plus beau de tous les éventails célèbres. Mais hier, je fus ébloui par ce divin chef-d'œuvre que Louis XV a bien certainement commandé. Pourquoi suis-je allé chercher un éventail rue de Lappe, chez un Auvergnat, qui vend des cuivres, des ferrailles, des meubles dorés? Moi, je crois à l'intelligence des objets d'art. Ils connaissent les amateurs, ils les appellent, ils leur font tchit-tchit. La présidente haussa les épaules en regardant sa fille, sans que Ponce pût voir cette mimique rapide.
« Je les connais tous, ces rapias-là. Qu'avez-vous de nouveau, papa Monistrol? Avez-vous des dessus de porte ? »
ai-je demandé à ce marchand, qui me permet de jeter les yeux sur ses acquisitions avant les grands marchands. À cette question, Monistrol me raconte comment Liénard, qui sculptait dans la chapelle de Dreux de fort belles choses pour la liste civile, avait sauvé à la vente d'Aunay les boiseries sculptées des mains des marchands de Paris, occupées de porcelaine et de meubles incrustés.
« Je n'ai pas eu grand-chose, me dit-il, mais je pourrais gagner mon voyage avec cela. »
Et il me montra le bonheur du jour, une merveille. C'est des dessins de boucher exécutés en marqueterie avec un art. C'est à se mettre à genoux devant. « Tenez, monsieur, me dit-il, je viens de trouver dans un petit tiroir fermé, dont la clé manquait et que j'ai forcé, cet éventail. Vous devriez bien me dire à qui je peux le vendre. » Et il me tire cette petite boîte en bois de Sainte-Lucie sculptée. « Voyez, c'est de ce Pompadour qui ressemble au gothique fleuri. »
« Oh ! Lui ai-je répondu, la boîte est jolie, elle pourrait m'aller, la boîte.
Car l'éventail, mon vieux Monistrol, je n'ai point de Madame Ponce à qui donner ce vieux bijou. D'ailleurs, on en fait des neufs bien jolis. On peint aujourd'hui ces velins-là d'une manière miraculeuse et assez bon marché. Savez-vous qu'il y a 2000 peintres à Paris ? » Et je dépliais négligemment l'éventail, contenant mon admiration, regardant froidement ces deux petits tableaux d'un laisser-aller, d'une exécution à ravir. Je tenais l'éventail de Madame de Pompadour. Watteau s'est exterminé à composer cela.
« Combien voulez-vous du meuble ?»«
Oh, 1 000 francs, on me les donne déjà. » Je lui dis un prix de l'éventail qui correspondait aux frais présumés de son voyage. Nous nous regardons alors dans le blanc des yeux, et je vois que je tiens mon homme. Aussitôt, je remets l'éventail dans sa boîte, afin que l'Auvergnat ne se mette pas à l'examiner, et je m'extasie sur le travail de cette boîte, qui certes est un vrai bijou.
« Si je l'achète, dis-je à Monistrol, c'est à cause de cela, voyez-vous. Il n'y a que la boîte qui me tente.
Quant à ce bonheur du jour, vous en aurez plus de 1 000 francs. Voyez donc comme ces cuivres sont ciselés. C'est des modèles. On peut exploiter cela. Ça n'a pas été reproduit. On faisait tout unique pour Madame de Pompadour. » Et mon homme, allumé pour son bonheur du jour, oublie l'éventail. Il me le laisse à rien, pour prix de la révélation que je lui fais de la beauté de ce meuble de Riesener. Et voilà. Mais il faut bien de la pratique pour conclure de pareils marchés. C'est des combats d'œil à œil. Et quel œil que celui d'un juif ou d'un auvergnat. L'admirable pantomime, la verve du vieil artiste qui faisait de lui, racontant le triomphe de sa finesse sur l'ignorance du brocanteur, un modèle digne du pinceau hollandais. Tout fut perdu pour la présidente et pour sa fille, qui se dirent, en échangeant des regards froids et dédaigneux, « Quel original !»«
Ça vous amuse, donc ?» demanda la présidente.
Ponce, glacé par cette question, éprouva l'envie de battre la présidente. « Mais, ma chère cousine, reprit-il, c'est la chasse au chef-d'œuvre, et on se trouve face à face avec des adversaires qui défendent le gibier. C'est ruse contre ruse. Un chef-d'œuvre doublé d'un Normand, d'un Juif ou d'un Auvergnat, mais c'est comme dans les contes de fées, une princesse gardée par des enchanteurs. »
« Et comment savez-vous que c'est de Watteau ? Comment dites-vous ? » ?»«
Watteau, ma cousine, un des plus grands peintres français du XVIIIe siècle. Tenez, ne voyez-vous pas la signature ? »
dit-il en montrant une des bergeries qui représentait une ronde dansée par de fausses paysannes et par des bergers grands seigneurs.
« C'est d'un entrain ! Quelle verve ! Quel coloris ! Et c'est fait, tout d'un trait !» comme un paraphe de maître d'écriture. On ne sent plus le travail. Et de l'autre côté, tenez, un bal dans un salon. C'est l'hiver et l'été. Quels ornements! Et comme c'est conservé! Vous voyez, la virole est en or, et elle est terminée de chaque côté par un tout petit rubis que j'ai décrassé.
S'il en est ainsi, je ne pourrais pas, mon cousin, accepter de vous un objet d'un si grand prix. Il vaut mieux vous en faire des rentes,
dit la présidente, qui ne demandait cependant pas mieux que de garder ce magnifique éventail.
Il est temps que ce qui a servi au vice soit aux mains de la vertu,
dit le bonhomme en retrouvant de l'assurance.
Il aura fallu 100 ans pour opérer ce miracle.
Soyez sûr qu'à la cour, aucune princesse n'aura rien de comparable à ce chef-d'œuvre.
Car il est, malheureusement, dans la nature humaine de faire plus pour une Pompadour que pour une vertueuse reine.
Eh bien, je l'accepte,
dit en riant la présidente.
Cécile, mon petit ange, va donc voir avec Madeleine à ce que le dîner soit digne de notre cousin.
La présidente voulait balancer le compte. Cette recommandation faite à haute voix, contrairement aux règles du bon goût, ressemblait si bien à l'appoint d'un paiement que Ponce rougit comme une jeune fille prise en faute. Ce gravier, un peu trop gros, lui roula pendant quelque temps dans le cœur. Cécile, jeune personne très rousse, dont le maintien, entaché de pédantisme, affectait la gravité judiciaire du président et se sentait de la sécheresse de sa mère, disparut en laissant le pauvre Ponce aux prises avec la terrible présidente.
« Elle est bien gentille, ma petite Lily, »
dit la présidente en employant toujours l'abréviation enfantine donnée jadis au nom de Cécile.
« Charmante !»
répondit le vieux musicien en tournant ses pouces.
« Je ne comprends rien au temps où nous vivons, » répondit la présidente. « À quoi cela sert-il donc d'avoir pour père un président à la cour royale de Paris et commandeur de la Légion d'honneur ? Pour grand-père, un député millionnaire, un futur pair de France, le plus riche des marchands de soieries en gros. »
Le dévouement du président à la dynastie nouvelle lui avait valu récemment le cordon de commandeur, faveur attribuée par quelques jaloux à l'amitié qu'il unissait à Popinot.
Ce ministre, malgré sa modestie, s'était, comme on l'a vu, laissé faire compte.
« À cause de mon fils, » dit-il à ses nombreux amis.
« On ne veut que de l'argent aujourd'hui, » répondit le cousin Ponce. « On n'a d'égard que pour les riches, et... »
« Que serait-ce donc ? » s'écria la présidente, « si le ciel m'avait laissé mon pauvre petit Charles ?»«
Oh, avec deux enfants, vous seriez pauvre !» reprit le cousin.
« C'est l'effet du partage égal des biens.
Mais soyez tranquille, ma belle cousine, Cécile finira bien par se marier. Je ne vois nulle part de jeune fille si accomplie. »
Voilà jusqu'où Ponce avait ravalé son esprit chez ses amphitryons. Il y répétait leurs idées, et il leur commentait platement à la manière des chœurs antiques. Il n'osait pas se livrer à l'originalité qui distingue les artistes, et qui, dans sa jeunesse, abondait en très fin chez lui, mais que l'habitude de s'effacer avait alors presque aboli, et qu'on rembarrait, comme tout à l'heure, quand elle reparaissait.
« Mais je me suis mariée avec 20 000 francs de dot seulement. »«
En 1819, ma cousine, » dit Ponce en interrompant.
« Et c'était vous, une femme de tête, une jeune fille protégée par le roi Louis XVIII. »« Mais enfin, ma fille est un ange de perfection, d'esprit. Elle est pleine de cœur. Elle a 100 000 francs en mariage, sans compter les plus belles espérances, et elle nous reste sur les bras. »
Madame de Marville parla de sa fille et d'elle-même pendant 20 minutes, en se livrant aux doléances particulières aux mères qui sont en puissance de filles à marier. Depuis 20 ans que le vieux musicien dînait chez son unique cousin Camusot, le pauvre homme attendait encore un mot sur ses affaires, sur sa vie, sur sa santé. Ponce était d'ailleurs partout une espèce d'égout aux confidences domestiques. Il offrait les plus grandes garanties dans sa discrétion connue et nécessaire, car un seul mot hasardé lui aurait fait fermer la porte de 10 maisons. Son rôle d'écouteur était donc doublé d'une approbation constante. Il souriait à tout, il n'accusait, il ne défendait personne. Pour lui, tout le monde avait raison. Aussi ne comptait-il plus comme un homme. C'était un estomac. Dans cette longue tirade, la présidente avoua, non sans quelques précautions, à son cousin qu'elle était disposée à prendre pour sa fille presque aveuglément les parties qui se présenteraient. Elle alla jusqu'à regarder comme une bonne affaire un homme de 48 ans, pourvu qu'il eût 20 000 francs de rente.
Cécile est dans sa 23e année. Et si le malheur voulait qu'elle atteignît 25 ou 26 ans, il serait excessivement difficile de la marier. Le monde se demande alors pourquoi une jeune personne est restée si longtemps sur pied. On cause déjà beaucoup trop dans notre société de cette situation. Nous avons épuisé les raisons vulgaires. Elle est bien jeune, elle aime trop ses parents pour les quitter, elle est heureuse à la maison, elle est difficile, elle veut un beau nom. Nous devenons ridicules, je le sens bien. D'ailleurs, Cécile est hélas d'attendre. Elle souffre, pauvre petite.
Et de quoi ? Demanda sottement Ponce.
Mais, reprit la mère d'un ton de duègne, elle est humiliée de voir toutes ses amies mariées avant elle.
Ma cousine, qu'y a-t-il donc de changé depuis la dernière fois que j'ai eu le plaisir de dîner ici, pour que vous songiez à des gens de 48 ans ?
Dit humblement le pauvre musicien.
« Il y a, répliqua la présidente, que nous devions avoir une entrevue chez un conseiller à la cour, dont le fils a 30 ans, dont la fortune est considérable, et pour qui Monsieur de Marville aurait obtenu, moyennant finance, une place de référendaire à la cour des comptes. Le jeune homme y est déjà surnuméraire, et l'on vient de nous dire que ce jeune homme avait fait la folie de partir pour l'Italie, à la suite d'une duchesse du Balmabille. C'est un refus déguisé. On ne veut pas nous donner un jeune homme dont la mère est morte et qui jouit déjà de 30 000 francs de rente en attendant la fortune du père. Aussi, devez-vous nous pardonner notre mauvaise humeur, cher cousin. Vous êtes arrivé en pleine crise. »
Au moment où Ponce cherchait une de ces complémenteuses réponses qui lui venaient toujours trop tard chez les amphitryons dont il avait peur, Madeleine entra, remit un petit billet à la présidente et attendit une réponse. Voici ce que contenait le billet. « Si nous supposions, ma chère maman, que ce petit mot nous est envoyé du palais par mon père, qui te dirait d'aller dîner avec moi chez son ami pour renouer l'affaire de mon mariage, le cousin s'en irait, et nous pourrions donner suite à nos projets chez les Popinot. » « Qui donc, monsieur, m'a-t-il dépêché ? » demanda vivement la présidente. « Un garçon de salle du palais, » répondit effrontément la sèche Madeleine. Par cette réponse, la vieille soubrette indiquait à sa maîtresse qu'elle avait ourdi ce complot, de concert avec Cécile impatientée. « Dites que ma fille et moi, nous y serons à 5h30. » Madeleine, une fois sortie, la présidente regarda le cousin Ponce avec cette fausse aménité qui fait sur une âme délicate l'effet que du vinaigre et du lait mélangés produisent sur la langue d'un friand. « Mon cher cousin, le dîner est ordonné. Vous le mangerez sans nous, car mon mari m'écrit de l'audience pour me prévenir que le projet de mariage se reprend avec le conseiller, et nous allons y dîner. Vous concevez que nous sommes sans aucune gêne ensemble. Agissez ici comme si vous étiez chez vous. Vous voyez la franchise dont j'use avec vous pour qui je n'ai pas de secret. Vous ne voudriez pas faire manquer le mariage de ce petit ange. Moi, ma cousine, qui voudrais au contraire lui trouver un mari. Mais dans le cercle où je vis... Oui, ce n'est pas probable, » repartit insolemment la présidente. « Ainsi, vous restez. Cécile vous tiendra compagnie pendant que je m'habillerai. »« Oh, ma cousine, je puis dîner ailleurs, » dit le bonhomme. Quoique cruellement affecté de la manière dont s'y prenait la présidente pour lui reprocher son indigence, il était encore plus effrayé par la perspective de se trouver seul avec les domestiques. « Mais pourquoi ? Le dîner est prêt, les domestiques le mangeraient. » En entendant cette horrible phrase, Ponce se redressa comme si la décharge de quelque pile galvanique l'eût atteint, salua froidement sa cousine et alla reprendre son Spencer. La porte de la chambre à coucher de Cécile, qui donnait dans le petit salon, était entrebâillée, en sorte qu'en regardant devant lui dans une glace, Ponce aperçut la jeune fille, prise d'un fou rire, parlant à sa mère par des coups de tête et des mines qui révélèrent quelque lâche mystification au vieil artiste. Ponce descendit lentement l'escalier en retenant ses larmes. Il se voyait chassé de cette maison, sans savoir pourquoi. « Je suis trop vieux maintenant, » se disait-il. « Le monde a horreur de la vieillesse et de la pauvreté, de laides choses. Je ne veux plus aller nulle part sans invitation. » Mot héroïque. La porte de la cuisine située au rez-de-chaussée, en face de la loge du concierge, restait souvent ouverte, comme dans les maisons occupées par les propriétaires et dont la porte cochère est toujours fermée. Le bonhomme put donc entendre les rires de la cuisinière et du valet de chambre, à qui Madeleine racontait le tour joué à Ponce, car elle ne supposa point que le bonhomme évacuerait la place si promptement. Le valet de chambre approuvait hautement cette plaisanterie envers un habitué de la maison, qui, disait-il, ne donnait jamais qu'un petit écu aux étrennes. « Oui, mais s'il prend la mouche et qu'il ne revienne pas ?» fit observer la cuisinière. « Ce sera toujours 3 francs de perdu pour nous autres au jour de l'an. »« Eh, comment le saurait-il ? » dit le valet de chambre en réponse à la cuisinière. « Bah ! » reprit Madeleine. « Un peu plus tôt, un peu plus tard, qu'est-ce que cela nous fait ? Il ennuie tellement les maîtres dans les maisons où ils dînent, qu'on le chassera partout. » En ce moment, le vieux musicien cria « « Le cordon, s'il vous plaît !» à la portière. Ce cri douloureux fut accueilli par un profond silence à la cuisine. « Il écoutait !» dit le valet de chambre. « Eh bien, tant pire, ou plutôt tant mieux !» répliqua Madeleine. « C'est un rat fini !»
Le pauvre homme, qui n'avait rien perdu des propos tenus à la cuisine, entendit encore ce dernier mot. Il revint chez lui par les boulevards, dans l'état où serait une vieille femme, après une lutte acharnée avec des assassins. Il marchait, en se parlant à lui-même, avec une vitesse convulsive, car l'honneur saignant le poussait comme une paille emportée par un vent furieux. Enfin, il se trouva sur le boulevard du Temple, à 5 heures, sans savoir comment il y était venu. Mais, chose extraordinaire, il ne se sentit pas le moindre appétit. Maintenant, pour comprendre la révolution que le retour de Ponce à 7 heures allait produire chez lui, les explications promises sur Madame Cibot sont ici nécessaires. La rue de Normandie est une de ces rues au milieu desquelles on peut se croire en province. L'herbe y fleurit, un passant y fait événement, et tout le monde s'y connaît. Les maisons datent de l'époque où, sous Henri IV, on entreprit un quartier dont chaque rue porta le nom d'une province, et au centre duquel devait se trouver une belle place dédiée à la France. L'idée du quartier de l'Europe fut la répétition de ce plan. Le monde se répète en toutes choses, partout, même en spéculation. La maison où demeuraient les deux musiciens est un ancien hôtel, entre cour et jardin. Mais le devant, sur la rue, avait été bâti lors de la vogue excessive dont a joui le Marais durant le siècle dernier. Les deux amis occupaient tout le deuxième étage dans l'ancien hôtel. Cette double maison appartenait à Monsieur Pillerot, un octogénaire qui en laissait la gestion à Monsieur et Madame Cibot, ses portiers depuis 26 ans. Or, comme on ne donne pas des émoluments assez forts à un portier du Marais pour qu'il puisse vivre de sa loge, le sieur Cibot joignait à son sou pour livre et à sa bûche prélevée sur chaque voie de bois les ressources de son industrie personnelle. Il était tailleur, comme beaucoup de concierges. Avec le temps, Cibot avait cessé de travailler pour les maîtres tailleurs, car, par suite de la confiance que lui accordait la petite bourgeoisie du quartier, il jouissait du privilège inattaqué de faire les raccommodages, les reprises perdues, les mises à neuf de tous les habits, dans un périmètre de 3 rues. La loge était vaste et saine, il y attenait une chambre. Aussi le ménage Cibot passait-il pour un des plus heureux parmi messieurs les concierges de l'arrondissement. Cibot, petit homme rabougri, devenu presque olivâtre à force de rester toujours assis, à la turque, sur une table élevée à la hauteur de la croisée grillagée qui voyait sur la rue, gagnait à son métier environ 40 sous par jour. Il travaillait encore, quoiqu'il eût 58 ans. Mais 58 ans, c'est le plus bel âge des portiers. Ils se sont faits à leur loge, la loge est devenue pour eux ce qu'est l'écaille pour les huîtres, et ils sont connus dans le quartier. Madame Cibot, ancienne belle écaillère, avait quitté son poste au cadran bleu par amour pour Cibot, à l'âge de 28 ans, après toutes les aventures qu'une belle écaillère rencontre sans les chercher. La beauté des femmes du peuple dure peu, surtout quand elles restent en espalier à la porte d'un restaurant. Les chauds rayons de la cuisine se projettent sur les traits, qui durcissent, les restes de bouteilles bues en compagnie des garçons s'infiltrent dans le teint, et nulle fleur ne mûrit plus vite que celle d'une belle écaillère. Heureusement pour Madame Cibot, le mariage légitime et la vie de concierge arrivèrent à temps pour la conserver. Elle demeura comme un modèle de Rubens, en gardant une beauté virile que ses rivales de la rue de Normandie calomniaient, en la qualifiant de « grosse dondon ». Ses tons de chair pouvaient se comparer aux appétissants glacis des mottes de beurre d'Isigny, et nonobstant son embonpoint, elle déployait une incomparable agilité dans ses fonctions. Madame Cibot atteignait à l'âge où ces sortes de femmes sont obligées de se faire la barbe. N'est-ce pas dire qu'elle avait 48 ans? Une portière à moustache est une des plus grandes garanties d'ordre et de sécurité pour un propriétaire. Si Delacroix avait pu voir Madame Cibot posée fièrement sur son balai, certes, il en eût fait une bellone. La position des époux Cibot, en style d'accusation, devait, chose singulière, affecter un jour celle des deux amis. Aussi l'historien, pour être fidèle, est-il obligé d'entrer dans quelques détails au sujet de la loge. La maison rapportait environ 8 000 francs, car elle avait 3 appartements complets, double en profondeur, sur la rue, et 3 dans l'ancien hôtel, entre cour et jardin. En outre, un ferrailleur, nommé Rémonenc, occupait une boutique sur la rue. Ce Rémonenc, passé depuis quelques mois à l'état de marchand de curiosités, connaissait si bien la valeur bric-à-bracoise de Ponce qu'il le saluait du fond de sa boutique quand le musicien entrait ou sortait. Ainsi, le sou pour livre donnait environ 400 francs au ménage Cibot, qui trouvait en outre gratuitement son logement et son bois. Or, comme les salaires de Cibot produisaient environ 700 à 800 francs en moyenne par an, les époux se faisaient, avec leurs étrennes, un revenu de 1 600 francs, à la lettre mangée par les Cibots qui vivaient mieux que ne vivent les gens du peuple. « On ne vit qu'une fois !» disait la Cibot. Née pendant la Révolution, elle ignorait, comme on le voit, le catéchisme. De ses rapports avec le cadran bleu, cette portière à l'œil orange et hautain avait gardé quelques connaissances en cuisine qui rendaient son mari l'objet de l'envie de tous ses confrères. Aussi, parvenus à l'âge mûr, sur le seuil de la vieillesse, les Cibots ne trouvaient-ils pas devant eux 100 francs d'économie? Bien vêtus, bien nourris, ils jouissaient d'ailleurs dans le quartier d'une considération due à 26 ans de probité stricte. S'ils ne possédaient rien, ils n'avaient n'une centime à autrui, selon leur expression, car Madame Cibot prodiguait les « ne » dans son langage. Elle disait à son mari « Tu n'es n'un amour ». Pourquoi ? Autant vaudrait demander la raison de son indifférence en matière de religion. Fiers tous les deux de cette vie au grand jour, de l'estime de 6 ou 7 rues et de l'autocratie que leur laissait leur propriétaire sur la maison, ils gémissaient en secret de ne pas avoir aussi des rentes. Cibot se plaignait de douleurs dans les mains et dans les jambes, et Madame Cibot déplorait que son pauvre Cibot fût encore contraint de travailler à son âge. Un jour viendra qu'après 30 ans d'une vie pareille, un concierge accusera le gouvernement d'injustice. Il voudra qu'on lui donne la décoration de la Légion d'honneur. Toutes les fois que les commérages du quartier leur apprenaient que telle servante, après 8 ou 10 ans de service, était couchée sur un testament pour 300 ou 400 francs en viager, c'était des doléances de loge en loge. Qui peuvent donner une idée de la jalousie dont sont dévorées les professions infimes à Paris? Ah, ça! Il ne nous arrivera jamais à nous autres d'être mis sur des testaments. Nous n'avons pas de chance. Nous sommes plus utiles que les domestiques, cependant. Nous sommes des gens de confiance. Nous faisons les recettes, nous veillons au grain. Mais nous sommes traités ni plus ni moins que des chiens, et voilà. Il n'y a cœur et malheur, disait Cibot en rapportant un habit. Si j'avais laissé Cibot à sa loge et que je me fusse mise cuisinière, nous aurions 30 000 francs de placés, s'écriait Madame Cibot en causant avec sa voisine, les mains sur ses grosses hanches. J'ai mal entendu la vie, histoire d'être logée et chauffée dedans une bonne loge et de ne manquer de rien. Lorsqu'en 1836, les deux amis vinrent occuper à eux deux le 2e étage de l'ancien hôtel, ils occasionnèrent une sorte de révolution dans le ménage Cibot. Voici comment Schmuck avait, aussi bien que son ami Ponce, l'habitude de prendre les portiers ou portières des maisons où il logeait pour faire faire son ménage. Les deux musiciens furent donc du même avis en s'installant rue de Normandie pour s'entendre avec Madame Cibot, qui devint leur femme de ménage à raison de 25 francs par mois. 12 francs 50 centimes pour chacun d'eux. Au bout d'un an, la portière émérite régna chez les deux vieux garçons, comme elle régnait sur la maison de M. Pillerault, le grand-oncle de Mme la comtesse Popinot. Leurs affaires furent ses affaires, et elle disait, mes deux messieurs. » Enfin, en trouvant les deux casse-noisettes doux comme des moutons, faciles à vivre, point défiants, de vrais enfants, elle se mit, par suite de son cœur de femme du peuple, à les protéger, à les adorer, à les servir avec un dévouement si véritable qu'elle leur lâchait quelques semonces et les défendait contre toutes les tromperies qui grossissent à Paris les dépenses de ménage. Pour 25 francs par mois, les deux garçons, sans préméditation et sans s'en douter, acquirent une mère. En s'apercevant de toute la valeur de Madame Cibot, les deux musiciens lui avaient naïvement adressé des éloges, des remerciements, de petites étrennes, qui resserrèrent les liens de cette alliance domestique. Madame Cibot aimait mille fois mieux être appréciée à sa valeur que payée. Sentiment qui, bien connu, bonifie toujours les gages. Cibot faisait à moitié prix les courses, les raccommodages, tout ce qui pouvait le concerner dans le service des deux messieurs de sa femme. Enfin, dès la seconde année, il y eut, dans l'étreinte du deuxième étage et de la loge, un nouvel élément de mutuelle amitié. Schmuck conclut avec Madame Cibot un marché qui satisfit à sa paresse et à son désir de vivre sans s'occuper de rien. Moyennant 30 sous par jour, ou 45 francs par mois, Madame Cibot se chargea de donner à déjeuner et à dîner à Schmuck. Ponce, trouvant le déjeuner de son ami très satisfaisant, passa de même un marché de 18 francs pour son déjeuner. Ce système de fourniture, qui jeta 90 francs environ par mois dans les recettes de la loge, fit des deux locataires des êtres inviolables, des anges, des chérubins, des dieux. Il est fort douteux que le roi des Français, qui s'y connaît, soit servi comme le furent alors les deux casse-noisettes. Pour eux, le lait sortait pur de la boîte. Ils lisaient gratuitement les journaux du premier et du troisième étage, dont les locataires se levaient tard, et à qui l'on eût dit au besoin que les journaux n'étaient pas arrivés. Madame Cibot tenait d'ailleurs l'appartement, les habits, le palier, tout dans un état de propreté flamande. Schmuck jouissait, lui, d'un bonheur qu'il n'avait jamais espéré. Madame Cibot lui rendait la vie facile. Il donnait environ 6 francs par mois pour le blanchissage dont elle se chargeait, ainsi que des raccommodages. Il dépensait 15 francs de tabac par mois. Ces trois natures de dépenses formaient un total mensuel de 66 francs, lesquels, multipliés par 12, donnent 792 francs. Joignez-y 220 francs de loyer et d'imposition, vous avez 1012 francs. Cibot habillait Schmuck, et la moyenne de cette dernière fourniture allait à 150 francs. Ce profond philosophe vivait donc avec 1200 francs par an. Combien de gens, en Europe, dont l'unique pensée est de venir demeurer à Paris, seront agréablement surpris de savoir qu'on peut y être heureux avec 1200 francs de rente, rue de Normandie, au Marais, sous la protection d'une Madame Cibot. Madame Cibot fut stupéfaite en voyant rentrer le bonhomme Ponce à 5 heures du soir. Non seulement ce fait n'avait jamais eu lieu, mais encore son monsieur ne la vit pas, ne la salua point. « Ah bien, Cibot, dit-elle à son mari, Monsieur Ponce est millionnaire ou fou ?»« Ça m'en a l'air, répliqua Cibot en laissant tomber une manche d'habit où il faisait ce que, dans l'argot des tailleurs, on appelle un poignard. Au moment où Ponce rentrait machinalement chez lui, Madame Cibot achevait le dîner de Schmuck. Ce dîner consistait en un certain ragoût dont l'odeur se répandait dans toute la cour. C'était des restes de bœuf bouilli, achetés chez un rôtisseur, tant soit peu regrattier, et fricassés au beurre avec des oignons coupés en tranches fines, jusqu'à ce que le beurre fût absorbé par la viande et par les oignons, de manière à ce que ce mets de portier présentât l'aspect d'une friture. Ce plat, amoureusement concoctionné pour Cibot et Schmuck, entre qui la Cibot le partageait, accompagné d'une bouteille de bière et d'un morceau de fromage, suffisait au vieux maître de musique allemand. Et croyez bien que le roi Salomon, dans sa gloire, ne dînait pas mieux que Schmuck. Tantôt ce plat de bouillie fricassée aux oignons, tantôt des reliefs de poulet sauté, tantôt une persillade et du poisson à une sauce inventée par la Cibot, et à laquelle une mère aurait mangé son enfant sans s'en apercevoir, tantôt de la venaison, selon la qualité ou la quantité de ce que les restaurants du boulevard revendaient aux rôtisseurs de la rue Moucherat. Tel était l'ordinaire de Schmuck, qui se contentait, sans maudire, de tout ce que lui servait la bonne madame Cibot. Et de jour en jour, la bonne madame Cibot avait diminué cet ordinaire jusqu'à pouvoir le faire pour la somme de 20 sous. « Je vas savoir ce qui lui est arrivé, n'a ce pauvre cher homme, » dit madame Cibot à son époux, « car v'là le dîner de monsieur Schmuck tout paré. » Madame Cibot couvrit le plat de terre creux d'une assiette en porcelaine commune, puis elle arriva, malgré son âge, à l'appartement des deux amis, au moment où Schmuck ouvrait à Ponce. « Qu'as-tu, mon bon ami ?» dit l'Allemand effrayé par le bouleversement de la physionomie de Ponce. « Je te dirai tout, mais je viens dîner avec toi. »«
Dîner, dîner !» s'écria Schmuck enchanté. « Mais est-ce impossible ? »
ajouta-t-il en pensant aux habitudes gastrolatriques de son ami. Le vieil Allemand aperçut alors madame Cibot qui écoutait, selon son droit de femme de ménage légitime. Saisi par une de ces inspirations qui ne brillent que dans le cœur d'un ami véritable, il alla droit à la portière et l'emmena sur le palier.
« Madame Cibot, ce bon Ponce aime les bonnes choses. Allez aux quatre trempleux, demandez un bedid tinervin, des anchois, des magaroni, un vin un rebat de liquilis. »
« Qu'est-ce que c'est ? » demanda madame Cibot.
« Eh bien, reprit Schmuck, c'est ce tifo à la pourchoise, ou une pot de boisson, une bouteille de fin de porto, tout ce qu'il y aura de meilleur en friandise, gomme de groguette turisse et d'hilar vimé. Bah, yé, ne dites rien, j'ai fait rentrer toute l'argent demain matin. »